Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, 39e épisode, la fin des années 1930, errance et exil. Soyez tous les bienvenus et merci de votre fidélité à Carrefour des Amériques. Nous arrivons bientôt à la fin des années 1930, c'est-à-dire au bout de notre périple à travers le temps et l'espace dans le Rio de la Plata. En 1937 à Buenos Aires, le président Justo cède la place à Roberto Ortiz, qui, malgré un état de santé alarmant, lutte contre la corruption. D'ailleurs, le Congrès ouvre enfin une enquête sur les activités des nazis en Argentine. La capitale continue à briller de tout son éclat. L'avenue du 9 juillet est ouverte. C'est l'une des plus vastes au monde. Et puis c'est l'année de la fondation de la Radio Nationale Argentine, la Radio Nationale Argentina, qui nous a confié tant de documents sonores. Elle a été inaugurée le 6 juillet dans le Palais de la Poste, là où se trouve aujourd'hui le Centre culturel Kirchner. Elle est à même de transmettre des séances au Palais des Congrès, ainsi que des concerts, des récitals de grands chanteurs et même des opéras au Théâtre Colonne. Le Théâtre Colonne, où est inaugurée l'école d'opéra et d'art de la scène, qui prendra un essor remarquable vers 1960 grâce au compositeur Alberto Ginastera et au chorégraphe Michel Borowski. Quant à la musique populaire et au tango, ils sont toujours aussi dynamiques. Le 1er juillet, ce sont les débuts très remarqués du bandoneoniste Aníbal Troilo, Pichuco, comme on l'appelle affectueusement. À 11h du soir, dans le petit cabaret Marabout, il joue avec son ensemble ses premiers tangos qui relancent fortement le genre. Et le premier s'intitule « Tinta Verde », l'encre ou la couleur verte. C'est dans ce petit cabaret qu'a commencé la légende d'Aníbal Troilo. Merveilleux Aníbal Troilo. En 1937, au Théâtre Colonne, il manque un nom à l'affiche, celui de la soprano Nino Valin. Elle est en France, où elle tourne pour la première fois dans deux films. Elle avait donné ses derniers récitals dans le Rio de la Plata en août 1936, à Buenos Aires et à Montevideo. Au programme Lully, Gluck, Händel, Schumann, De Falla, son ami Joaquin Nin et Claude Debussy, un compositeur qu'elle a interprété souvent et qu'elle a fait mieux connaître dans le Rio de la Plata. Elle a enregistré en 1943 le promenoir des deux amants sous la direction de Louis Bates, dont le très émouvant « Je tremble en voyant ton visage ».
« si librement à cette fidèle élément tous les frivoles de la famille. Et tu parles tout privilège me mettre au-dessus.
C'est vers 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, que Nino Valin est revenu au Rio de la Plata, surtout en Uruguay, pour donner des cours de chant et retrouver ses anciens élèves. Elle enseignait surtout au conservatoire et parfois au théâtre du Sodré, où se trouvait la radio. Il existe peu de documents à ce sujet, mais le hasard fait bien les choses. En février 2017, un journaliste uruguayen qui enquête sur les belles demeures du pays s'intéresse à une superbe maison au milieu d'un grand jardin dans le quartier du Prado, au nord de Montevideo, face à la baie. Et là, surprise, il apprend que Nino Valin a vécu dans la maison voisine entre 1954 et 1956, une maison qui appartenait alors au docteur Pedro Barcia et à son épouse, et où vit aujourd'hui leur fille Olga, qui se confie aux journalistes. Mes parents étaient des habitués de la saison lyrique du Théâtre Colonne. Ils y ont entendu souvent Nino Valin. Comme ma mère chantait, elle a demandé à Nino de lui donner des cours et maman l'a revue après la guerre en Europe, où elle a retravaillé avec elle dans sa propriété de la Sauvagère près de Lyon. Ces années-là, Carlos Estrada dirigeait à Montevideo le Conservatoire National de Musique. Ma mère était devenue professeure de chant et elle l'a convaincue d'engager Nino. Mes parents lui ont alors proposé d'habiter le petit appartement tout à fait indépendant au rez-de-chaussée de leur maison. Le compositeur Eduardo Fabini venait souvent, et puis Marianne Anderson est venue la rencontrer, ainsi que Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault qui jouaient Christophe Colomb de Claudel. Nino Valin a formé un nombre impressionnant de grands chanteurs uruguayens. Nino a ainsi enseigné au conservatoire de Montevideo jusqu'en 1959, soit 2 ans avant sa mort à Lyon. Dans les années 30, le compositeur argentin Pasquale de Rogatis lui a dédié sa danse gaucha, la Chacarera, pour qu'elle n'oublie jamais la Pampa et ses amis du Rio de la Plata.
Bajo el palo, por mi vida, cuando estoy.
La Chacarera que Rogatis avait écrite pour Nino Valin et Elisa Calvo Soprano, Silvana Donofrio au piano. C'est un document d'archives que nous devons à Claudio Castro de la Radio Nationale Argentine. Nino Valin a aujourd'hui son buste dans un des grands foyers du Théâtre Colonne. En France, l'Association des Amis de la Cantatrice perpétue heureusement sa mémoire. À son retour en Uruguay vers 1950, Nino Valin a sans doute connu le jeune compositeur Jaurès Lamarque Pons. Il était né dans la petite ville de Salto, au nord-est du pays, et pour gagner sa vie, il jouait dans des théâtres de music-hall et dans des cabarets. En 1933, il a 16 ans quand il compose sa première œuvre pour piano, une Lorelei, un lied en forme de tango qui sied comme un gant à Nino Valin. La Lorelei du compositeur uruguayen Jaurès Lamarque Pons par Elida Gencarelli. À Montevideo, la France fait soudain grand tapage quand la compagnie d'opérette française de Jacqueline Francel installe ses tréteaux du 21 septembre au 1er octobre 1937 au prestigieux théâtre Solis. À l'affiche, de grands classiques comme L'amour masqué d'André Messager et Sacha Guitry, et Fifi de Christinet. Par contre, la direction s'inquiète un peu en lisant des titres comme Couchette et Quand on est trois de Josef Schulk, polonais installé à Bruxelles. Par chance, le nom d'Arthur Honegger apporte une caution de qualité et de sérieux. Personne n'imagine alors à Montevideo le grand écart que fait le compositeur suisse en écrivant après le roi David un roi Pozol dont les aventures, pour le moins libertines, alertent les autorités qui assistent aux premières répétitions. L'œuvre est alors annoncée dans les journaux comme un futur scandale. Pour éviter toute protestation, les affiches sont barrées d'un bandeau vert, comme pour les films interdits aux mineurs. La presse déconseille même le spectacle aux femmes. Rien de tel pour remplir le théâtre et réaliser un énorme succès, car de surcroît, la musique d'Honegger est juste magnifique. Mario Venzago à la tête de l'atelier philharmonique suisse dans l'ouverture des aventures du roi Pozzol d'Arthur Honegger. Le 28 décembre 1937, c'est une triste nouvelle qui endeuille le Rio de la Plata. Maurice Ravel, tant aimé par le public en Amérique du Sud, meurt à Paris. À Buenos Aires, le chef français Albert Wolff, récemment engagé au Théâtre Colonne, organise une série de concerts en son hommage. Au mois d'août, le baryton français Martial Singer chante pour la première fois à Buenos Aires. On l'entend dans Werther, Alceste de Gluck et Castor et Pollux de Rameau, dont c'est la création en Amérique du Sud dans de superbes décors d'Hector Basaldúa. Il fait aussi un beau succès dans le conte des Noces de Figaro de Mozart et dans Amfortas de Parsifal de Wagner sous la direction de Fritz Busch. D'ailleurs, Martial Singer allait épouser en 1940 Margaretha Busch, la fille du chef d'orchestre, et s'établir avec elle aux États-Unis. Martial Singer était de surcroît un merveilleux chanteur de mélodies françaises et il donne en août 1937 des récitals à Buenos Aires et à Montevideo. Son Don Quichotte à Dulciné de Maurice Ravel est d'une belle noblesse en sa simplicité.
Saint-Michel qui me donne loisir de voir Madame et de Saint-Michel qui me daigne choisir pour lui complaire et la défendre. Bon Saint-Michel, veuillez descendre avec Saint-Georges sur
La chanson épique du Don Quichotte de Maurice Ravel, Marcel Singer bariton, l'orchestre dirigé par Piero Coppola. Ravel et Don Quichotte nous ramènent bien sûr en cette Espagne douloureuse de 1936 et son flot d'exilés sur les routes vers la France et sur les bateaux vers les Amériques. Un des premiers grands cantaores flamencos à fuir est Angeligio. Il embarque en 1936 vers l'Argentine où il s'établit à Buenos Aires durant 18 ans. Il est régulièrement à l'affiche des théâtres argentins et uruguayens avant de commencer une tournée à travers les Amériques qui le mène à Cuba en janvier 1938 en chemin vers le Mexique. Pajarito en su nido, l'oisillon en son nid ne cherche qu'à s'échapper et à s'envoler dans le ciel.
Un pajarillo en su nido. Un pajarillo en su nido vuela y vuela sin cesar. Y siempre buscando en vano, y siempre buscando en vano sitio por donde escapar. Y siempre buscando en vano, y siempre buscando en vano sitio por donde escapar. Pobrecillo como sufre buscando su libertad, yo como el pájaro quiero. Como el paro, quiero mi libertad recobrar. Yo como el paro, quiero mi libertad recobrar. El preso se halla en la jaula y yo preso en cariño. El preso se halla en la jaula y yo preso en tu cariño. Él canta y olvida todo. Él canta y olvida todo. Y y yo lloro como un niño. El cantar y olvida todo, el cantar y olvida todo, y yo lloro como un niño.
Angelillo, accompagné ici par le grand Ramon Montoya à la guitare.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
En 1937, le compositeur espagnol Jaume Paisa, catalan et fervent républicain, a été invité par le Théâtre Colón pour plusieurs concerts. Il dirige Wagner, des compositeurs argentins comme Constantino Gaiuto et crée plusieurs de ses œuvres, dont El Camino, le chemin. Il a quitté une Catalogne en lutte, mais il ne se fait guère d'illusions sur la fin du conflit. Il décide alors de s'exiler et de s'établir définitivement en Argentine, où il vivra jusqu'à sa mort en 1969. Il a composé El Camino en 1909. On imagine son émotion au pupitre quand il dirige à Buenos Aires cette évocation de sa Catalogne natale et de ses paysages qu'il ne reverra plus.
Thank you.
El Camino, ou en catalan El Camí, de Jaume Païssa, interprété par l'Orchestre Symphonique de Barcelone, enregistré sur le vif lors d'un concert sous la direction de Salvador Mas. Ce Camino nous conduit vers un autre chemin, très familier aux Argentins, le Caminito, le petit chemin, au bord du Riachuelo, ce ruisseau qui se jette dans le Rio de la Plata au port de la Boca à Buenos Aires. En 1930 sort le film La Fuga, la fuite, dans lequel Tita Merello chante dans un cabaret le tango Niebla en el Riachuelo, brouillard sur le Riachuelo, un tango qui chante aussi l'errance et l'exil, bateau au mouillage, amarré à des quais d'où ils ne partiront plus. Ils ne sont plus que des ombres qui s'étendent dans la nuit de la douleur, des naufragés du monde qui ont perdu leur cœur et qui rêvent encore qu'ils vont un jour reprendre la mer.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de sí amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de sí amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
chanson, extrait de la troisième composition en 12 tons pour clarinette de Juan Carlos Paz, un des fondateurs du groupe de rénovation musicale. En 1937, à l'âge de 40 ans, il décide de s'en affranchir pour créer un nouveau groupe de musique contemporaine plus radical, le groupe Nueva Música. Il fait alors découvrir au public argentin Schönberg et l'école de Vienne, le dodécaphonisme et les musiques atonales. Sa série de compositions en 12 tons pour clarinette est restée au répertoire des instrumentistes. Dans la troisième, interprétée ici par Mariano Frogioni, c'est un thème de gigue qui succède à la chanson. Après la saison d'opéra, le Théâtre Colonne affiche une belle série de récitals, dont celui de la contralto américaine Marian Anderson, qui arrive pour la première fois dans le Rio de la Plata. Elle vient de chanter à Paris en 1935 et de rencontrer Toscanini à Salzbourg. En cette année 1937, elle donne plusieurs concerts à Buenos Aires et à Montevideo en juin et en août. Des programmes très variés où Händel, Gluck et Schubert alternent avec Verdi, Sibelius, Ravel, Hugo Wolf et des Negro Spirituals. La cantatrice afro-américaine est appelée affectueusement par les Argentins El Ángel Negro, l'ange noir. Le théâtre Politeama et le vaste théâtre Solis d'un côté et de l'autre du Rio de la Plata font le plein. Elle reviendra plusieurs années de suite. Oh my Lord, what a morning. Mon Dieu, quel beau matin. En 1936, dans un théâtre de Buenos Aires, une autre exilée récemment arrivée en Argentine fait une profonde impression. une gitane au regard de feu, Carmen Amaya. Alors que la guerre civile vient d'éclater en Espagne, l'émotion est palpable dans la salle. Elle vient d'avoir un succès inouï avec son film « Maria Lao ». Elle a quitté son Andalousie natale à feu et à sang et elle est arrivée avec sa famille à Buenos Aires le 9 décembre 1936. Le 12, elle est sur la scène du théâtre Maravillas avec deux des plus grands guitaristes flamencos, Ramón Montoya et Sabi Cas, qui l'ont accompagnée souvent durant les 9 années qu'a duré son exil. Le succès a été si grand qu'elle a décidé de s'établir à Buenos Aires et elle commence aussitôt une longue tournée dans toutes les villes du pays. En juillet 1937, elle est de retour dans la capitale et est sans arrêt sur scène jusqu'au 7 septembre entre Buenos Aires et Montevideo. Aujourd'hui, une rue porte son nom dans la capitale argentine. C'est dans ce Buenos Aires de 1937 qu'un jeune compositeur de 21 ans, Alberto Ginastera, qui est encore étudiant au conservatoire, écrit ses 3 danses argentines pour piano, dont celle qu'il dédie dans la grande tradition de la culture de la Pampa au gaucho hors la loi, El Gaucho Matrero, dont le galop à cheval rythme la fuite.
Thank you.
Les danses de Ginastera sont créées à Buenos Aires le 27 octobre 1937. L'impression est forte sur le public et la presse reconnaît là un compositeur hors du commun. Derrière sa bonhomie naturelle et une sympathie immédiate se cache un tempérament de feu et une sorte de rage contenue qu'il exprimera surtout dans ses opéras. La deuxième danse est plus sereine, c'est celle de la gracieuse jeune fille, la moça Donosa. Deux danses argentines de Ginastera, interprétées par un grand ami du compositeur, le pianiste argentin Luis Ascot. Alberto Ginastera, qui en 1937 est décidément à la fête. Le 21 octobre et le 27 novembre, une suite tirée du ballet Panambi qu'il vient d'achever est au programme des concerts dirigés par Juan José Castro au Théâtre Colonne. C'est surtout la scène finale qui emporte l'adhésion du public, le lever du jour sur les forêts et le fleuve Paraná. On sait combien ce jeune Ginastera de 21 ans a été fasciné par le Sacre du printemps de Stravinsky et par le ballet Huirapuru de Aitor Villa-Lobos, avec ses chants d'oiseaux, ses légendes guaranis que lui-même évoque dans Panambi. Le succès fait que 3 ans plus tard, Juan José Castro dirige le ballet intégral, chorégraphié sur la scène du Théâtre Colonne par la légendaire Margarita Valman. En s'inspirant de l'Amérique précolombienne, Ginastera s'inscrit dans une lignée de compositeurs américanistes, comme celui qui en fut le pionnier, Pasquale De Rogatis en 1910. L'action se déroule dans une tribu d'Indiens Guaranis, dans les forêts, au bord du fleuve Paraná, dans ce qui est aujourd'hui la région de Misiones, au nord-est de l'Argentine, aux confins du Paraguay et du Brésil. Panambi, la fille d'un cacique, prépare son mariage avec un vaillant guerrier quand, juste avant la cérémonie, celui-ci est enlevé par les déesses des eaux qui vivent dans les profondeurs du fleuve. Le sorcier, amoureux de la jeune fille, en profite pour se venger de son dédain. Il exige qu'elle aille au fond des eaux pour ramener son fiancé. Alors que la jeune Panambi se prépare à s'immerger dans le fleuve Paraná, le dieu Tupá apparaît et l'arrête. Il transforme le sorcier en oiseau noir et ramène à la surface le beau guerrier qui se jette dans les bras de sa fiancée. L'aube se lève alors sur la forêt vierge et le fleuve Paraná. Un lever de soleil avec cœur, où Rinastera se souvient à la fois de Wirapuru de Aitor Villa-Lobos et du Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Juan José Mena, la direction de l'orchestre de la BBC et du chœur de Manchester dans ce lever de soleil sur la forêt vierge argentine de Ginastera. Une belle épiphanie pour se séparer aujourd'hui et se donner rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Eric Boisset qu'on peut écouter et réécouter en podcast.